Nous allons aborder la session des questions et des réponses. Et comme le veut notre règle de courtoisie, je vous demande de bien vouloir adresser votre première question à notre invité. Nous commençons ici par Kinshasa. Oui, nous avons une question sur la gauche, madame.
Merci Florence. C'est Elvira Pantu pour le compte de la RTL. Les HCR a annoncé le lundi dernier la mort de 11 réfugiés congolais tués par la police rwandaise. En dehors de des mots que les HCR a dit, choqués et perturbés, j'aimerais savoir que comptez-vous faire afin que cet acte ne reste pas impuni. Merci.
Merci. Évidemment, c'est toujours horrible quand on voit la violence contre des réfugiés ou des populations congolaises à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Ces actes fort regrettables qui ont eu lieu sont néanmoins dans un autre pays et il serait pertinent d'adresser ces questions aux autorités pertinentes, que ce soit les autorités au Rwanda ou l'HCR au Rwanda. Je vous remercie.
Nous allons à Goma pour une première question pour notre invité, s'il vous plaît.
Oui, moi c'est M. Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à Mme Florence.
Non, la question est pour notre invité, s'il vous plaît. La règle est que la première question depuis Goma est pour notre invité.
Merci beaucoup. Bonjour, je suis Gisèle pour le compte de Canal Afrique. L'Ituri, quelle est la situation actuelle des déplacés qui sont venus de Ndjougou et combien sont-ils?
Julien Arnès va répondre à votre question.
Ok, merci de la question sur la situation des déplacés qui ont quitté Ndjougou. Je note qu'il y a aussi un grand nombre de réfugiés congolais qui ont aussi quitté le Ndjougou pour aller vers l'Ouganda. Le montant des personnes qui sont passées à l'autre côté de la frontière se mesure dans plusieurs dizaines de milliers depuis le début du mois. Donc, aux alentours de Bounia, il y a plusieurs milles de déplacés. On est en train de vérifier la quantité de personnes à assister avec les autorités locales. Les agences onusiennes et organisations internationales ont travaillé toute la semaine dernière pour monter un plan de réponse rapide à la besoin de cette population. Et nous sommes en train d'allouer environ 3 millions de dollars du fonds humanitaire pour permettre une réponse rapide à cette population. Merci.
Nous restons à Goma où la personne qui souhaitait me poser la question peut maintenant la poser.
Oui, c'est Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Madame Marshall, je pose la question par rapport aux événements de la marche. La MONUSCO avait prévu d'envoyer ses troupes sur le terrain pour la protection des civils. Mais quand Nesserossi a eu une balle, ils ont manqué même l'assistance pour aller à l'hôpital. Il n'y avait même pas d'ambulance. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que si la MONUSCO était sur place, au moins on allait sauver une vie? Pourquoi la MONUSCO n'était pas sur le terrain? Merci.
Alors, je vous rappelle deux choses. La première, c'est que la MONUSCO n'a pas envoyé des troupes sur le terrain dimanche, mais elle a envoyé des équipes mixtes, composées à la fois de représentants de la force de la MONUSCO, en effet, mais aussi de la police et des collègues aussi du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça, c'est la première précision. La seconde précision, c'est que la MONUSCO est présente en République démocratique du Congo pour assister le gouvernement congolais vers la stabilisation. Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux autorités congolaises et la sécurité des biens et des personnes est une relève des responsabilités des autorités congolaises, de l'État congolais. Donc nous étions effectivement sur le terrain dimanche, mais dans la limite de nos ressources disponibles. Voilà. On revient ici à Kinshasa avec une question ici sur ma gauche. Madame.
Merci. Je suis Marthe pour l'agence France Presse. Je reviens sur la question autour de la marche. et vous dites que vos équipes étaient sur le terrain. Et qu'est-ce que les observateurs de la MONUSCO ont pu constater? Parce que dans la déclaration de la représentante spéciale, elle demande aux uns aux autres de la retenue. Est-ce qu'il y a eu violence de la part des manifestants? Et quand vous parlez de cette retenue, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et qu'est-ce que vous avez vu? Merci.
Alors, donc, en effet, nous avions des équipes d'observation déployées sur le terrain, ici à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire de la RDC, et cela conformément au mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. Alors, il faut savoir que ce déploiement avait été précédé d'un dialogue mené par les responsables de la mission, et aussi notamment par la représentante spéciale du secrétaire général, donc un dialogue qui avait été mené avec toutes les parties prenantes avant les manifestations de dimanche, afin de s'assurer que les marches seraient pacifiques et que les manifestants et les forces de sécurité feraient preuve de retenue. Lors de ce dialogue, lors de ces échanges, l'importance du respect du droit du peuple congolais à la liberté d'expression et au droit de manifester avait été également soulignée. Ceci est un exemple de ce que nous appelons les bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général. Donc ça, c'était avant les marches de dimanche. Ensuite, dimanche, nous avons observé et nous avons noté un dispositif plus allégé des forces de l'ordre. Malgré le recours à la force, à certains endroits pour disperser les manifestants, notamment à Kinshasa, à Bandaka et à Kisangani, nos équipes ont pu voir qu'à certains endroits, les marches ont pu avoir lieu. Enfin, alors que la représentante spéciale du secrétaire général a appelé les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à prendre les sanctions appropriées, nous avons pris note du fait que les deux personnes qui auraient été à l'origine du décès des deux victimes avaient été rapidement arrêtées. L'une a déjà été condamnée. Pour la seconde, la procédure est en cours. Il est important que tout auteur de faute ou de crime, lorsque les responsabilités sont établies, soit sanctionné dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Voilà le bilan de nos observations et de nos actions par rapport à ces marches. Nous restons ici à Kinshasa pour prendre une question. Ici, sur ma droite, là-bas, Madame Christiane.
Bonjour, Madame Christiane Ekambo du journal lesnations.net. Ma question s'adresse à Monsieur Julien. Je voudrais savoir si les 3 millions de dollars qui ont été la contribution de la Suisse au PAM, FAO et l'UNICEF font partie de l'enveloppe que vous avez du fonds que vous êtes, de l'appel de fonds que vous êtes en train de d'utiliser maintenant. Vous êtes en train de demander, quoi. Oui, c'est ce que je veux savoir. Et quels sont déjà le pays, à part la Suisse, quels sont les contributeurs qui ont déjà fait une action? Merci.
Ok, merci. Merci de la question, madame. Et donc, le fonds humanitaire auquel j'ai fait référence, c'est un fonds humanitaire qui permet à les organisations nationales et internationales de répondre rapidement aux besoins en cas de crise ou d'urgence. Et c'est un fonds qui a le soutien parmi d'autres pays, la Grande-Bretagne et la Suède et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Et ça, c'est l'outil qui nous permet de rapidement répondre dans les semaines à venir à cette population. Donc actuellement, c'est en cours de planification et d'allocation pour les organisations concernées. Mais on n'a pas encore terminé le processus, donc je ne peux pas encore citer les organisations qui vont recevoir ces financements. Merci.
Nous repartons à Goma pour une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous entendre à Goma? On vous voit, mais on ne vous entend pas. Alors, en attendant que le problème de son soit résolu du côté de Goma, on revient ici.
C'est Guilherme Balloumé pour Zoom TV d'Amsterdam. En fait, ma question, c'est par rapport à... vous avez parlé par rapport au le fait que la protection des civils revient au gouvernement congolais. Mais ce qui se passe, c'est toujours le même gouvernement qui est en train d'opprimer son propre peuple. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous allez toujours continuer à confier au gouvernement congolais la protection des civils? Merci.
Vous le savez, toutes les actions de la MONUSCO et des Nations Unies découlent des mandats qui nous sont donnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et actuellement, nous travaillons sous le mandat donné par la résolution 2348 qui nous demande de protéger les populations civiles, notamment celles qui sont sous la menace des groupes armés, et d'accompagner la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Donc, toutes nos actions sont inscrites dans les résolutions du Conseil de sécurité et seul le Conseil de sécurité peut modifier notre mandat, ce qu'il est d'ailleurs en train de faire, puisqu'actuellement il y a des discussions à New York pour le renouvellement du mandat, puisque le mandat actuel arrive à échéance le 31 mars. Mais voilà, le Conseil de sécurité est le seul organe, selon les règlements des Nations Unies, à pouvoir apporter des modifications et nous donner des instructions différentes quant à notre action en République démocratique du Congo. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question ici sur la gauche.
Merci. Séraphin Kierémaï de l'Agence congolaise de presse. Monsieur Julien, vous avez parlé de fédérer toute la communauté internationale et le gouvernement pour subvenir aux besoins de ces populations déshéritées. Mais vous-même, vous avez été sur place, vous avez vécu la situation. Est-ce que vous n'entendez pas changer de formule? Par exemple, amener sur terrain des représentants, des délégués, des donateurs qui peuvent voir eux-mêmes des visous quelle est la situation exacte qui se passe ici. Parce que le fait de parler comme ça, peut-être ils ne croient pas. Mais vous avez vécu la situation. Vous pouvez les amener sur le terrain, éventuellement avec une équipe de la presse, pour faire la véritable mobilisation. Merci.
Merci beaucoup de la question. Bon, je pense que les défis humanitaires pour le Congo sont tellement grands que ce n'est pas une conférence pour plaidoyer pour les financements une fois dans l'année qui va nous trouver les ressources financières ni capacités humaines pour répondre aux besoins. Il est essentiel que nous établissons une campagne permanente pour soutenir le Congo et les Congolais et les Congolaises. Et donc, par définition, ça nécessite d'autres actions sur le terrain, avec des États membres, avec la presse, mais aussi avec des représentants d'organisations congolaises, avec les représentants d'organisations internationales, pouvoir témoigner de la situation, de voir ce qu'on peut faire et comment on peut avancer ensemble. Je vous remercie.
Nous restons ici à Kinshasa. Nous allons prendre une autre question. Oui, monsieur. Monsieur.
Oui, c'est Patrick Félix Abel pour RTVS1. Madame Marshall, porte-parole de la MONUSCO, la liberté des manifestations garantie par la Constitution, la MONUSCO mission d'observation en RDC, le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que la RDC est un abattoir humain. Et vous êtes porte-parole de la MONUSCO, quelle est votre analyse ou votre constat par rapport à la présence de la RDC de siéger au Haut Conseil? Est-ce que cette place mérite-t-elle à la RDC?
Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de répondre à de nombreuses reprises à cette question. Vous faites allusion aux propos du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, des propos qui ont été tenus lundi à Genève lors de l'ouverture de la 37e session du Conseil des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'une session, lors de cette session, il se tiendra un dialogue interactif renforcé sur la situation en cours des droits de l'homme en RDC, et cela aura lieu le 20 mars prochain. Nous repartons à Goma pour une question. On fait un peu vite à Goma parce qu'on est à l'antenne et les auditeurs n'entendent pas ce qui se passe puisqu'il ne se passe rien.
Oui, Raphaël Kiongi du journal Jonction Paris Saint-Goma. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. C'est à propos des incidents survenus à Goma le samedi 20 février, avec les affrontements, ce qu'on peut qualifier d'affrontements, entre les éléments d'une force négative dans un groupe soi-disant Maïmaï et l'armée nationale, avec le bilan que nous connaissons de 4 morts dans les rangs de groupe Maïmaï et d'un mort du côté de l'armée nationale. Alors la question c'est celle-ci. Cette attaque survenue le samedi prouve à suffisance qu'il y a dans la ville de Goma une grande infiltration des éléments de groupes armés. Alors quelles sont les dispositions prises à la lumière de cet événement du 20 février par la MONUSCO pour protéger la population civile?
Nous n'entendons pas, Goma. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse depuis le début, parce qu'ici nous n'avons pas entendu, commandant.
Donc, effectivement, il y avait 4 morts qui ont été enregistrés le samedi soir à Goma. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu établir des liens que ces 4, ce sont des membres d'un groupe armé ou juste des délinquants. On a travaillé ensemble avec des patrouilles de la police onusienne. Notre CIOB à Hembe a envoyé vers le site de l'incident des patrouilles robustes. Et bien sûr, on reste en contact avec la PNC et les FARDC pour apporter une solution à ce problème-là. S'agissant du manifestation du 25, ici à Goma, on a actionné des forces de réaction rapide sur place pour parer à toute éventualité. En premier lieu, bien sûr, parce que notre première mission est d'assurer la protection des installations onusiennes et la protection de nos personnels, et bien sûr les dépêcher là où le besoin se fait sentir. Donc voilà ma réponse à votre question.
Merci. Nous revenons ici à Kinshasa où beaucoup de mains se lèvent. Le choix est difficile, donc on va aller sur la gauche avec monsieur.
Merci, c'est venant vous dire ça de la RTNC. Ma question s'adresse au coordonnateur adjoint, humanitaire adjoint, M. Julien, pour ne pas les citer. Monsieur Julien, vous avez circulé dans toutes les zones en conflit et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il faut mobiliser beaucoup plus d'attention pour les Congolais, d'où l'appel de fonds d'environ 1,668 milliards de dollars. La question que je me pose, qui l'appel, vous le lancez à l'endroit du gouvernement congolais qui lui-même a des sérieux problèmes parce que son attention s'est plus tirée plus vers le financement des élections ou à la communauté internationale. De deux, une fois que la communauté internationale aura répondu favorablement à cet appel, qui gérera ces fonds? Le gouvernement vous laissera-t-il le monopole de gérer les 1,668 millions de dollars? Je vous remercie.
Merci. Merci. Donc l'appel va se faire avril 13 à Genève et c'est un appel qui va être fait avec des États membres. Auprès de la communauté internationale et ensemble avec la présence du gouvernement. Ce que nous attendons, c'est évidemment des financements, mais c'est aussi de l'assistance technique. Et quand on réfléchit à ce que le gouvernement peut faire, il y a quand même aussi beaucoup de choses que le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de la réponse humanitaire sans nécessairement aller sur des actions qui vont nécessiter des finances importantes. Il y a améliorer l'accès dans les zones qui sont touchées par le conflit, fluidifier l'arrivée d'intrants de soutien physique humanitaire, fluidifier l'arrivée de visas. Donc il y a toute une série d'actions sur lesquelles on peut travailler ensemble avec le gouvernement. Le gouvernement a déjà établi un cadre national de concertation humanitaire. C'est une excellente initiative. C'est en train d'être reparti sur le terrain avec des cadres de concertation provinciale. Et c'est des forums parfaits pour voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble sur des actions qui ont besoin de financement, mais aussi des actions pratiques avec les autorités sur place. Qui va recevoir les finances? Bon, la majorité de ces finances vont directement à un État membre, à une organisation. Ça peut être une organisation, une agence onusienne, ça peut être une ONG internationale, ça peut être une ONG nationale. Ou ça peut être un fonds comme le fonds humanitaire. Donc c'est en bref la structure vers laquelle nous allons ensemble avec le gouvernement. Je vous remercie.
Une autre question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci, Albert Omba, Numérica TV.
Ça marche.
Monsieur Julien, je reviens tout de suite à la question de notre ami. Il y a toujours des petits problèmes entre le gouvernement et les fonds qui sont alloués pour ce travail humanitaire. Et pour le gouvernement, si ma mémoire est bonne, ce sont des actions qui viennent et qui n'ont pas d'impact conçu. C'est fait pour des ONG qui ont une connotation politique ou autre chose. Est-ce que quand ces fonds-là arrivent, le gouvernement congolais est-il persuadé que c'est un fonds qui arrive pour aider les Congolais qui sont dans une situation catastrophique?
Merci. Donc le plan humanitaire auquel on a lancé ensemble avec le Premier ministre il y a 6 semaines, c'était fait ensemble avec le gouvernement, en consultation avec eux. Les actions qui sont décrites dans le plan, et le plan d'ailleurs est disponible sur l'Internet, si vous voulez le voir, les actions qui sont décrites dans ce plan sont des actions qui sont purement humanitaires, c'est-à-dire des actions qui sont là pour sauver la vie. C'est des actions pour mettre des enfants retourner à l'école qui ont été détruites ou endommagées par des conflits. Je suis totalement confiant que c'est des actions essentielles pour la population, et quand on met en œuvre ces activités, ces plans, ces projets, c'est à travers c'est ensemble avec des cadres de concertation qui nous permet de regarder, que ce soit ici au niveau du Kinshasa, mais aussi dans les provinces, à Bukavu, à Goma, à Kananga, Chikapa et ailleurs, pour voir comment va l'action humanitaire ensemble avec les autorités. Qu'est-ce que nous, les acteurs humanitaires, on peut mieux faire, et qu'est-ce que le gouvernement aussi peut mieux faire pour nous aider à travailler ensemble. Je vous remercie.
Nous repartons à Goma pour une question, s'il vous plaît.
Merci, je suis Victoire Mouloavio pour Blessing FM, mais aussi pour le journal Emergence Peace. Ma question est adressée à vous, Madame Florence. Entre-temps, je suis en train de vous prendre au mot. La nouvelle résolution 2348 du Conseil de sécurité, bien évidemment, s'achève le 31 mars prochain. Alors, ma question est de savoir si une fois cette résolution s'achève, le mandat confié et défini dans cette résolution, voilà, à s'achever le 31 mars, serez-vous prêt ou accepterez-vous de partir du Congo pour d'autres pays? Merci.
Alors, on va faire les choses dans l'ordre. La première chose, donc, c'est le Conseil de sécurité qui a la gestion des opérations de maintien de la paix. C'est lui qui décide, qui vote des résolutions pour ouvrir une mission de maintien de la paix. C'est aussi lui qui vote une résolution pour la terminer. Et après, entre les deux, c'est ce même Conseil de sécurité qui donc donne les mandats aux missions pour qu'elles le mettent en œuvre concrètement sur le terrain. Donc, c'est un processus qui est en cours pour le renouvellement du mandat. Je précise également que les opérations de maintien de la paix s'établissent dans un pays avec l'accord du pays hôte. concernant le départ de la mission, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit la base de travail sur laquelle le Conseil de sécurité travaille, puisque comme je l'ai annoncé en ouverture de cette conférence de presse, notre représentante spéciale du secrétaire général va se rendre à New York la semaine prochaine, dans les prochains jours, pour des consultations justement sur le renouvellement du mandat. Voilà où nous en sommes. Et évidemment, tous les jours, nous travaillons afin que ce jour arrive. Et ensemble, avec le gouvernement congolais. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question qui a été déjà maintes fois posée. Nous revenons ici à Kinshasa, où il y a là-bas, dans le fond, le monsieur avec la chemise à carreaux.
Merci, c'est Didier Barros pour le journal télévisé à PIC. Je reviens sur la marche du dimanche dernier. Et Madame Florence, s'agissant de la mort de Monsieur Rossi Chimanga, la police affirmait que c'était un facteur de troubles. Vous qui étiez sur terrain, pouvez-vous nous préciser si Rossi Chimanga était réellement était en train de semer le désordre à Saint-Benoît ou tout à fait le contraire? Merci.
Alors, dans le cadre de notre mandat, nous menons des allégations de violation des droits de l'homme, des enquêtes, pardon, sur les allégations de violation des droits de l'homme, y compris sur le décès de M. Mukendi. Et l'enquête est actuellement en cours, donc nous ne pouvons pas livrer les conclusions, mais... Oui, dans le cadre de notre mandat, nous menons des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme. Oui, madame. Bonjour. Un problème de micro. Donc, la question va arriver le temps que le micro arrive à la bonne personne. Et voilà, on y va.
Mireille Poi, ISM Online. Ma question s'adresse à Florence. Par rapport au processus électoral en cours, quel est l'apport concret de la MONUSCO sur la finalisation du fichier électoral à ce jour? Merci.
Alors, concernant la finalisation du fichier électoral, c'est vraiment une responsabilité qui revient intégralement à la Commission électorale nationale indépendante qui est en charge de l'organisation des élections dans ce pays. La contribution de la MONUSCO à la révision du fichier électoral a été, l'année dernière, de déployer le matériel qui a permis de procéder à l'enregistrement des électeurs. Plus de 4000 tonnes de matériel avaient été déployées sur l'ensemble du territoire. Il y avait les kits d'enregistrement, les générateurs, des ordinateurs, enfin bon, tout ce matériel, donc plus de 4000 tonnes, déployées notamment dans les zones les plus difficiles d'accès, où la MONUSCO donc a apporté une assistance technique en transportant ce matériel, soit par avion, soit par hélicoptère. Monsieur au fond, s'il vous plaît. Alors, on a un seul micro maintenant qui marche, donc c'est un petit peu plus long. Je donne toutes ces explications pour nos auditeurs.
Merci, c'est Alex Mindo, Amen Télévision. Madame Florence, hier nous avions la MONUC qui était une mission d'observation au Congo, pendant qu'il y avait des morts qui s'observaient. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO qui est une mission de stabilisation. Et nous demandons, on stabilise quoi? Parce qu'on stabilise que ce qu'on a déjà acquis. Est-ce qu'avec le prochain mandat de la MONUSCO, avec le concours de Mme Leila Zerougui, est-ce que la MONUSCO va rester dans le diapason de stabilisation, ou soit elle peut changer et être une mission d'intervention, comme c'est le cas en Syrie et ailleurs?
Je vais répondre ce que j'ai déjà répondu à votre collègue. C'est vraiment une question qui va au-delà de mes attributions. C'est une question à poser aux membres du Conseil de sécurité qui nous donnent le mandat. Car ici à la MONUSCO et sous l'impulsion de la représentante spéciale du secrétaire général, nous mettons en œuvre les mandats du Conseil de sécurité. Mais ce n'est pas nous, qui décidons du mandat que nous allons mettre en œuvre. Nous reprenons, oui, une question pour monsieur ici, et après, Goma, on retourne à vous.
Merci, moi.
C'est bon, ça marche, allez-y.
C'est Glody Moukoko pour les comptes des désastres télévision. Moi, je vais revenir sur ce que vient de dire ma consoeur de tout à l'heure à ce qui concerne les processus électoraux. Avec ce système de machines à voter, qui est d'ailleurs contesté par l'émissaire américain à l'ONU, je cite Nikki Haley. Par contre, le président de la CENI, Corné Nanga, dit que sans cette machine, il n'y aura pas d'élection. Alors vous, la MONUSCO, comment expliquez-vous ces paradoxes?
L'organisation des élections donc relève des autorités congolaises et de la CENI. Donc nous n'avons pas à commenter les choix de la CENI. Notre mandat est d'apporter un soutien logistique et un appui technique à la CENI. Ce soutien entre dans le cadre plus large de de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre afin de préparer la RDC à une transition politique réussie. C'est dans ce cadre que nous avons développé un plan de soutien logistique pour les prochaines élections. En vertu de la contrainte numéro 11 qui figurait dans le calendrier qui avait été présenté par la CENI le 5 novembre, et nous avons commencé d'ailleurs les préparatifs pour transporter le matériel électoral vers 15 hubs et 129 sites. Nous avons une relation de partenariat avec la CENI que nous assistons pour le déploiement du matériel, mais la responsabilité de l'organisation des élections et de la manière avec laquelle les élections sont organisées relève entièrement de la Commission électorale nationale indépendante. Nous repartons à Goma pour une question, s'il vous plaît.
Alain Andimouy, pendant. Ma question revient par rapport au mandat de la MONUSCO. Vous venez de dire que vous allez renouveler le mandat. Il y a peu, la MONUSCO a fermé certaines bases dans des zones où la population estimait que la MONUSCO était encore utile pour nous avoir un bilan. Alors, est-ce que vous pouvez aussi répondre à la préoccupation de cette population qui pensait que la MONUSCO a détruit un édifice qu'il a construit pendant 10 ans à une seule décision? Je vous remercie.
Vous faites allusion effectivement à des fermetures de base qui répondent à un nouveau mode opératoire de la mission. Il y a actuellement au niveau des opérations de maintien de la paix, pour cette mission ici, mais pour l'ensemble des opérations de maintien de la paix dans le monde, il y a actuellement une réflexion sur comment s'adapter aux nouvelles menaces, comment être plus rapide, plus flexible, plus efficace. Et il y a quelques mois, une revue stratégique est venue ici en République démocratique du Congo, une revue stratégique menée par les Nations Unies, afin de voir la situation et de faire des recommandations sur justement comment être toujours plus efficace, comment toujours mieux mettre en œuvre notre mandat. Et c'est ainsi que l'une des dispositions et l'une des recommandations qui a été faite et que nous avons commencé à mettre en œuvre est celle de la protection par projection. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème quelque part, nous déployons temporairement des forces à l'endroit où les personnes ont besoin d'assistance. Donc on passe du concept d'avoir une base fixe à avoir une base temporaire déployée rapidement afin de pouvoir ramener dans les meilleures conditions possibles la situation vers le calme et l'apaisement. Le porte-parole militaire par intérim, dans ses propos liminaires, a encore parlé aujourd'hui du déploiement de bases temporaires. C'est aussi l'occasion pour moi ici de vous parler de l'exemple du déploiement qui a été fait entre le 19 décembre et le 10 janvier dernier, le déploiement temporaire de soldats pakistanais de la force à Kamako. C'est à la frontière avec l'Angola et la mission avait déployé ces soldats dans cette zone afin de favoriser le retour des Congolais qui s'étaient réfugiés en Angola suite à la crise dans le Kasaï. Et la présence de la force, en concertation avec les autres acteurs sur place, OCHA, le HCR, a rassuré les populations et a contribué à restaurer un climat de confiance. Donc, en plus de l'installation de la base temporaire militaire, il y a eu des initiatives civiles avec la mise en place d'un réseau d'alerte communautaire, l'instauration d'un dialogue avec les autorités locales. Et suite à la fermeture de cette base temporaire, les casques bleus ont effectué des missions de suivi en organisant des patrouilles dans les zones. Voilà un exemple concret de la mise en œuvre du concept de protection par projection. Donc il ne s'agit pas d'abandonner ce que nous avons fait, il s'agit de le renforcer et il s'agit de nous adapter à la situation et aux menaces qui sont nouvelles, aux environnements qui sont nouveaux dans lesquels nous évoluons, mais avec toujours une seule priorité, c'est la protection des populations civiles. On a 30 secondes pour prendre une question et une réponse. Ici sur ma droite, la question. Et voilà.
Allez-y pour la radio SCC, monsieur Julien. Vous avez présenté un tableau sombre sur le plan humanitaire en RDC et vous comptez mobiliser les fonds pour résoudre ce problème. Est-ce que vous vous préoccupez aussi des causes qui favorisent cette situation ?
Julien, vous avez 15 secondes.
Nous travaillons principalement sur comment résoudre les besoins de la population qui sont touchés par le conflit, comment les conforter, comment apporter de l'éducation, comment apporter des vivres, etc. Je vous remercie.
Merci à tous. Il est midi, nous rendons l'antenne à Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.